Donc, une présentation un petit peu plus détaillée de notre conférencier de ce soir, Jean-Marc Lévy-Leblond, qui est, comme certains d'entre vous le savent, physicien et qui est enseignant-chercheur à l'université, enfin qui était enseignant-chercheur à l'université. Jean-Marc Lévy-Leblond s'intéresse à la science depuis très longtemps et surtout aux problèmes politiques et sociaux posés par la science de façon générale. Et à ce titre, c'est pour ça qu'il marque un intérêt pour la Fondation Sciences Citoyennes. Et je précise que Jean-Marc Lévy-Leblond est un de nos anciens adhérents, un fidèle adhérent depuis déjà pas mal d'années. Donc, Jean-Marc est directeur d'une collection au Seuil qui s'intitule Science ouverte et il est également responsable d'une publication, d'une revue qui s'appelle Alliage, voilà, qui a une parution trimestrielle, donc biannuelle pour l'instant. Voilà. Et sinon, effectivement, Jean-Marc Lévy-Leblond écrit et a écrit un nombre d'ouvrages et donc dans quelques jours paraîtra son dernier ouvrage qui s'intitule La science expliquée à mes petits-enfants et qui sera disponible aux éditions du Seuil. Voilà, je vais lui céder la parole tout de suite et il va nous présenter donc son intervention.
Oui, et expliquer aux petits-enfants pour qu'ils puissent l'expliquer à leurs grands-parents, naturellement. Bien, alors on m'a demandé de vous parler de l'avenir de la science et je suis très embarrassé parce que comme j'ai eu l'occasion de le laisser entendre déjà au début de l'après-midi, je suis assez incertain sur son avenir. Mais alors j'ai eu un coup de chance absolument extraordinaire parce que s'est ouverte une faille temporelle qui a fait atterrir sur mon ordinateur un texte du 23e siècle. Et je vais vous lire ce texte. J'essayerai de ne pas être trop ennuyeux, mais ce n'est donc pas une conférence parlée. C'est un texte que je mets à votre disposition et dont vous allez voir qu'il n'est pas sans montrer quelques échos lointains, puisque c'est dans 3 siècles, avec certains des films que nous avons vus là, donc qui m'ont beaucoup frappé par cette coïncidence. Alors c'est un chapitre extrait d'un ouvrage collectif qui s'appelle Introduction à l'histoire des sciences et qui est paru aux presses universitaires de Tombouctou en 2213. En cherchant comme ça sur le net Histoire des sciences, tout d'un coup il y a eu une faille temporelle qui s'est ouverte. Et ce que je vais vous lire, c'est le chapitre 9, donc écrit au début du 23e siècle. Ce chapitre 9 traite du 21e siècle. Chapitre 9, le 21e siècle, déchéance et renaissance. Résumé du chapitre précédent, qui porte donc sur le 20e. Nous avons vu que le 20e siècle connut un remarquable développement des sciences de la nature. Tant les sciences physiques du microcosme, des atomes aux noyaux et aux quarks, que celle du macrocosme, des systèmes stellaires aux galaxies, aux quasars et à l'univers lui-même, sans oublier celle du mésocosme, état nouveau de la matière, dynamique des fluides, firent d'immenses progrès. Il en alla de même des sciences de la vie en ce qui concerne aussi bien la génétique à l'échelle moléculaire, entre autres, que l'évolution des êtres vivants. Nous avons noté cependant que la plupart des avancées fondamentales traduisant de véritables ruptures épistémologiques, furent essentiellement l'œuvre de la première moitié du XXe siècle. Théorie de la relativité, théorie quantique, découverte du code génétique, théorie de l'information. La seconde moitié du XXe siècle, quant à elle, vit une extension sans précédent des technologies fondées sur ces nouvelles connaissances scientifiques. En témoigne l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins d'abord militaires puis civiles, la micro puis nano-électronique, la photonique, laser, les synthèses chimiques contrôlées, l'informatique et les télécommunications, les traitements médicaux antibiotiques puis antiviraux, le clonage des mammifères supérieurs, etc. Cependant, prenant place dans une société régie par une économie de marché de moins en moins régulée. Alors là, il y a une petite note après le mot marché qui revient plusieurs fois dans le texte. Nous signalons par un astérisque des termes aujourd'hui peu compréhensibles pour l'explication desquels il est recommandé de se reporter aux ouvrages d'histoire générale de l'économie pour les élèves du 23e siècle. Donc, cependant, prenant place dans une société régie par une économie de marché de moins en moins régulée, ces techniques se virent de plus en plus assujetties à la loi du profit, encore une petite astérisque. Du coup, les institutions scientifiques furent progressivement orientées vers des objectifs économiques privés, visant la rentabilité à court terme, au détriment des démarches de recherche d'intérêt général, ouvertes et non finalisées. Les sciences sociales et humaines, parallèlement, se virent progressivement orientées vers la réponse à des demandes pratiques en matière de communication, comme on appelait à l'époque la publicité et la propagande, de gestion commerciale, d'organisation sociale, de contrôle politique. Les ambitions intellectuelles des sociologues et anthropologues des années 1950-1980 furent tournées en dérision et leurs travaux progressivement relégués au rang d'antiquité culturelle. Fin du résumé du XXe siècle. Le début du XXIe siècle. La marchandisation du savoir s'intensifia. Les grandes multinationales industrielles, électronique, informatique, pharmacie, pétrochimie, agrochimie, armement, et les institutions militaires prirent une importance majeure dans le financement de la recherche scientifique, que ce soit au sein de leurs propres laboratoires ou en finançant sur contrat les laboratoires publics. Amplifiant un mouvement qui trouvait son origine dans le projet Manhattan de fabrication de l'arme nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale, l'organisation même de la recherche scientifique se vit de plus en plus calquée sur le modèle de la production industrielle, avec des contraintes de compétitivité et de productivité y afférents. Une part majoritaire et toujours croissante de l'activité scientifique fut consacrée à des applications techniques capables d'alimenter l'économie de marché et la politique de puissance. Les recherches portant sur les questions fondamentales ouvertes furent progressivement réduites à la portion congrue. Ainsi, la physique de la constitution de la matière au niveau subnucléaire connut-elle son champ du cygne en 2012 avec la découverte du boson de Higgs. Le coût des appareillages, la lourdeur de l'organisation collective et l'absence de perspectives utilitaires menèrent vers 2020 à la fermeture des grands accélérateurs de particules, comme le LHC du CERN, et à une quasi-mise en jachère de ce domaine. Les questions cosmologiques, comme la nature de la matière sombre, furent abandonnées et restèrent sans solution en raison de leur manque de perspectives technologiques et du prix des télescopes géants, jugés prohibitifs dans l'atmosphère de crise économique, encore une petite astérisque, de crise économique chronique qui caractérisa les années 2010 à 2030. À la contrainte économique s'ajoutait d'ailleurs une butée épistémique. Les sophistications formelles des hypothèses proposées pour résoudre ces problèmes et l'impossibilité de les mettre à l'épreuve expérimentalement permettent avec le recul de les comparer aux théories astronomiques de l'Antiquité et du Moyen-Âge qui, à l'aide de leurs épicycles, déférents et autres écans, étaient capables de rendre compte des observations. Sod zainta phenomena, sauver les phénomènes, comme disait Pierre Duhem, grand historien des sciences du XIXe siècle, sans pour autant les expliquer. Dans les sciences de la vie, l'épigénétique, qui soulevait un immense intérêt dans les premières années du XXIe siècle, en promettant de dépasser les visions trop simplistes de la biologie moléculaire, se heurta très vite à des difficultés insurmontables en raison de la complexité des réseaux d'interactions chimiques mis en jeu. Il en alla de même pour les problèmes théoriques posés par le vieillissement, le cancer, le clonage, la morphogenèse, sans parler du fonctionnement cérébral, etc., ou les recherches piétinèrent. La simulation informatique s'était constituée à la fin du XXe siècle en pratique scientifique de plein exercice, élargissant la traditionnelle dualité théorie-expérience en une véritable trialité épistémologique. Cependant, malgré le développement des ordinateurs quantiques, qui restèrent par ailleurs fort coûteux et fragiles, cette voie méthodologique ne répondit que très partiellement aux espoirs qu'elle avait suscités. Force fut de réaliser qu'une simulation numérique, même réussie, n'apportait par elle-même guère de compréhension conceptuelle. C'est d'ailleurs ce qu'avait anticipé un grand théoricien du milieu du XXe siècle, Eugen Wigner. L'un de ses étudiants, lui montrant avec fierté les résultats d'un calcul informatique en physique moléculaire qui reproduisait correctement les valeurs expérimentales, il commenta « Je suis content de savoir que l'ordinateur a compris le problème, mais j'aimerais le comprendre aussi. » Ainsi donc, cessant petit à petit de produire des connaissances fondamentales nouvelles, les scientifiques furent amenés à se concentrer sur la seule mise en œuvre des savoirs acquis dans la perspective d'applications techniques à court terme, améliorant leur efficacité, leur fiabilité et leur rentabilité, de façon à renouveler en permanence l'offre marchande de biens de consommation, téléphones, ordinateurs, voitures, télévisions, alicaments, textiles, etc. Si certains secteurs, au premier chef les mathématiques pures, échappèrent à cet assujettissement, ce fut au prix d'un isolement croissant qui les enferma dans de véritables ghettos intellectuels. Les sciences sociales et humaines connurent une décadence parallèle. Le mouvement esquissé dans la section précédente s'intensifia, au point que la plupart des institutions de recherche fondamentales dans ces domaines furent tout simplement supprimées. L'enseignement de ces disciplines se vit essentiellement cantonné aux formations pratiques en matière de commerce et de gestion, dans une perspective purement utilitaire. Parallèlement à l'étiolement des activités de production des connaissances, la science fit l'objet d'une sérieuse perte de confiance au sein de la société. L'efficacité pratique de la technoscience du XXe siècle s'étant manifestée aussi bien par de réelles avancées dans le bien-être de l'humanité que par de graves menaces sur son avenir, l'idéologie scientiste, avec sa foi dans un progrès de la société mû par celui des sciences, perdit toute force de conviction. Les scientifiques avaient trop promis, et pas assez ou trop mal tenu leurs promesses, pour que leur crédibilité reste intacte. Amplifièrent le désaveu d'insidieuses campagnes de dénigrement menées par les puissances économiques et industrielles, dont la profonde dangerosité était révélée par les études scientifiques concernant, par exemple, le réchauffement climatique ou les méfaits de l'alimentation industrielle. Avec le recul dont nous disposons, cette période peut s'analyser comme la fin d'une phase historique de 4 siècles, débutant avec la révolution scientifique du XVIIe, phase très particulière dans l'histoire des sciences et plus généralement des cultures, qui fut caractérisée par l'efficiente conjugaison de la volonté de comprendre le monde et du désir de le transformer. Le programme cartésien, devenir comme maîtres et possesseurs de la nature, au demeurant n'avait connu un début de réalisation qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, pour se concrétiser enfin au XIXe et XXe. Mais cette exceptionnelle confluence de la théoria et de la praxis se révéla instable. La seconde s'imposant à la première. La science, désormais source des nouvelles techniques, se trouva prisonnière de ses promesses et sommée de les tenir sans délai. Devenue technoscience, elle fut ainsi progressivement privée de son ambition proprement intellectuelle au profit de son efficacité matérielle et d'une certaine façon disparut en tant que telle ou tout au moins entra dans une période de latence. Bien que cela apparût à l'époque comme une surprise incompréhensible aux turiféraires d'une science qu'ils en étaient venus à considérer comme universelle et éternelle, ce n'était là en fait qu'un nouvel épisode d'une longue histoire faite de telles éclipses et réapparitions. Pour ne prendre que 2 exemples majeurs, la science grecque s'était éteinte après Alexandrie et la science arabo-islamique avait périclité au XIIIe siècle avant que l'Europe ne reprenne le flambeau au XVIIe. Le milieu du XXIe siècle. Cette section ne peut être que très brève. l'effondrement, voire rappel en encadré, je vais y venir, mit simplement fin à toute activité scientifique collective sur la surface du globe, comme à tant d'autres pratiques sociales. L'extermination d'une grande partie de la population n'épargna pas les scientifiques, les institutions s'écroulèrent, les installations furent ravagées et une bonne partie des connaissances accumulées dans les bibliothèques, physiques ou numériques, disparut à tout jamais. Encadré, de rappel, pour les petits-enfants du XXIIIe siècle, l'effondrement 2040-2060. Bien que, en ce début de XXIIIe siècle, l'effondrement, avec un E majuscule, constitue la pierre angulaire de notre mémoire historique présente, rappelons l'essentiel des événements. À partir de 2020, le réchauffement climatique amorcé à la fin du XXe siècle connut une accélération dramatique. La production agricole des zones tempérées chuta, menaçant les nations les plus développées d'une disette générale. Les États-Unis, alors dirigés par des néoconservateurs garants des intérêts du complexe militaro-industriel, se lancèrent unilatéralement dans de vastes opérations de géo-ingénierie, créant un écran d'aérosol soufré dans la haute atmosphère aux fins d'atténuer le rayonnement solaire. Après quelques succès initiaux, les effets de cette manipulation des chairs planétaires se révélèrent catastrophiques, supprimant la mousson asiatique et aggravant la catastrophe agricole et la crise économique générale. Les tensions sociales s'exacerbèrent et des gouvernements autoritaires et populistes prirent le pouvoir dans la plupart des grandes nations, dérivant la colère des populations vers un nationalisme militariste agressif. C'est sur ce fond d'instabilité qu'en 2040, l'essai par l'Iran d'une fusée à tête thermonucléaire connut un échec dramatique. Le missile, au lieu de s'abîmer en pleine mer, acheva sa course non loin de Karachi, qui fut immédiatement anéanti par l'explosion. Croyant à une attaque indienne, le Pakistan répondit immédiatement en envoyant une dizaine de ses propres fusées qui détruisirent les plus grandes villes du pays, Mumbai, New Delhi, Calcutta, Madras, etc. Croyant à une attaque indienne, en représailles, l'Inde arrosa le Pakistan. En l'espace de quelques heures, les alliances militaires avérées ou secrètes généralisèrent le conflit qui opposa les États islamiques soutenus par la Chine d'un côté et l'Inde associée à la Russie de l'autre. L'informatisation des dispositifs militaires de détection et de riposte ne laissa place à nulle intervention humaine. Les échanges thermonucléaires croisés qui prirent fin lorsque les stocks de quelques centaines de bombes disponibles de part et d'autre furent épuisés, se virent relayés, toujours automatiquement, par les armes biologiques. Anthrax, peste et autres maladies infectieuses foudroyantes s'abattirent sur ce qui restait des populations. La guerre s'acheva au bout de quelques jours à peine, faute de combattants. Mais les retombées radioactives dispersées par les vents firent rapidement le tour de la Terre, atteignant successivement d'abord l'Europe et le Japon, puis les États-Unis et le Mexique. Au bout de quelques semaines, les survivants, environ la moitié de la population de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord, furent en proie aux épidémies déclenchées par les armes bactériologiques. Après à peine une année, tout l'hémisphère nord était ravagé. Les énormes quantités de poussière envoyées dans la haute atmosphère par les explosions entraînèrent de plus un dramatique changement climatique inversé, un hiver nucléaire. De larges portions du territoire étaient devenues inhabitables et les rescapés survivaient dans des conditions misérables au sein d'îlots éparpillés. L'hémisphère sud crut pouvoir échapper au désastre. Et pendant une brève période, Afrique et Amérique du Sud pensèrent leur heure de puissance venue. Mais au bout de quelques années, des mouvements migratoires intenses, malgré la précarité des moyens de transport disponibles, entraînèrent vers les terres d'un sud plus prometteur de grandes masses des misérables populations restantes du nord, chinoises en particulier, bouleversant les équilibres démographiques et culturels. La réaction des populations locales déstabilisa les institutions étatiques et entraîna, via des conflits localisés mais innombrables, un chaos généralisé. Après deux décennies, le sud, quoique moins dépeuplé, se trouvait aussi dévasté que le nord. L'humanité, ou ce qui en restait, se réorganisa petit à petit sur la base de communautés régionales autonomes, comprenant entre quelques milliers et quelques centaines de milliers de membres, relativement isolées les unes des autres en raison des zones inhabitables qui les séparaient. Elle parvint progressivement à renouer des liens sans que jamais se recomposent des entités de la taille des anciennes nations. Ainsi se constitua ce qui est aujourd'hui encore, plus d'un siècle et demi après l'effondrement, est la forme qu'a prise la communauté humaine, le réseau, constitué d'entités en général sans frontières communes et sans aucune institution centralisée. L'autonomie de ces multiples communautés garantit la stabilité du réseau grâce à une tolérance mutuelle fondée sur l'absence de conflits d'intérêts et les bienfaits d'échanges entre des collectivités aux ressources limitées, mais diverses et complémentaires. Ça, c'était la fin du rappel en encadré sur l'effondrement. Revenons maintenant à l'histoire des sciences proprement dites. La fin du XXIe siècle. Dans un certain nombre des communautés émergentes, parmi les moins précaires et qui comptaient en leur sein des rescapés des anciennes professions intellectuelles, se manifesta un retour d'intérêt pour la connaissance théorique, la spéculation intellectuelle et en particulier les questions scientifiques. Des collectes de livres et revues épargnées permirent de reconstituer une partie des bibliothèques d'avant l'effondrement. Notons que la documentation électronique, pour sa part, bien qu'elle ait été au début du XXIe siècle surabondante et hégémonique, se trouva complètement perdue. La plupart des ordinateurs n'avaient pas résisté au rayonnement, et les banques de données et leurs réseaux de communication encore moins. De petits groupes diversifiés d'études et de formations se constituèrent, regroupant autour des vétérans des jeunes gens avides de connaissances sur des modes assez semblables aux écoles de l'Antiquité, l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote ou au Cénacle de la Renaissance. Mais leurs activités, pourtant modestes, soulevèrent d'emblée une grande suspicion et rencontrèrent une vive hostilité. La plupart des citoyens tenaient pour une aberration morale la perspective d'une reprise des recherches qui, en permettant la mise au point des armes de destruction massive, avait apporté une contribution essentielle à l'effondrement. Prenant acte de cette méfiance, les académies nouvelles se firent un devoir d'accompagner leurs travaux d'une profonde réflexion éthique et politique. Se penchant sur l'histoire des sciences au XXe siècle, les protagonistes du renouveau comprirent l'enchaînement fatal qui avait, comme nous l'avons vu, transformé la science en technoscience et assujetti le désir de savoir à la volonté de pouvoir, soumettant la théoria à la praxis. Certes, les nouvelles conditions d'organisation décentralisée d'une humanité désormais désarmée et les modalités d'échange non marchand ne permettaient plus la mainmise de puissances militaires et économiques sur la connaissance. Le risque existait pourtant qu'un redéploiement des sciences naturelles ne ravive le projet prométhéen et les formes d'organisation sociale qu'il avait concrétisées, reproduisant in fine ses catastrophiques effets pervers. Aussi, les quêteurs, ainsi que l'on désigna ces nouveaux chercheurs, se convainquirent-ils rapidement qu'avant de relancer les sciences de la nature, il leur fallait remettre en chantier les sciences de l'homme et de la nouvelle société. On assista ainsi à un renversement de l'ancienne hiérarchie des disciplines. Les sciences anthropiques, rassemblant sociologie, ethnologie, anthropologie, psychologie, etc., prenant l'ascendant sur les sciences physiques, de la matière et de la vie, et s'appuyant sur un solide soubassement philosophique et culturel. Cette démarche avait été annoncée par l'un des grands créateurs du siècle précédent, Bertolt Brecht, qui dès 1939 avait prophétiquement écrit « Plus nous arrachons de choses à la nature grâce à l'organisation du travail, aux grandes découvertes et inventions, plus nous tombons, semble-t-il, dans l'insécurité de l'existence. Ce n'est pas nous qui dominons les choses, dirait-on, mais les choses qui nous dominent. Or, cette apparence tient à ce que certains hommes, par l'intermédiaire des choses, dominent d'autres hommes. Nous ne serons libérés des puissances naturelles que lorsque nous serons libérés de la violence des hommes. Si nous voulons profiter en tant qu'hommes de notre connaissance de la nature, il nous faut ajouter à notre connaissance de la nature la connaissance de la société humaine. Fin de citation. Le développement d'une autoréflexivité permanente permit au Quêteur de prendre conscience des limites épistémologiques des anciennes disciplines de pointe en cosmologie, en physique subnucléaire, en biologie subcellulaire, restées myopes sur leurs carences conceptuelles. Emporté par une technicité de plus en plus sophistiquée en ce qui concerne tant le formalisme mathématique que leurs procédures expérimentales, ces sciences en étaient arrivées à négliger toute réflexion critique sur leurs notions et leurs formulations. En témoignait assez le vocabulaire inadapté qu'elles avaient adopté pour leurs dernières avancées. Des termes comme relativité, principe d'incertitude, chaos déterministe, Big Bang, inflation, matière noire, supercorde, code génétique, adaptation et bien d'autres se révélèrent à l'examen porteur de telles ambiguïtés que s'imposa une refonte linguistique analogue à celle qu'en leur temps avaient mené à bien pour les sciences classiques, les Linné, Lavoisier, etc., mais à beaucoup plus grande échelle. Ce projet se déroula collectivement, fédérant les groupes de quêteurs, jusque-là épars, en une communauté souple et ouverte. Les discussions furent longues et ardues. On finit par se mettre d'accord sur une solution radicale. Afin de ne privilégier aucune des langues autrefois dominantes de le champ scientifique, il fut décidé d'adopter pour les nouvelles terminologies une écriture universelle, inspirée des idéogrammes chinois, permettant leur verbalisation dans n'importe quelle langue commune. La forte proportion des quêteurs d'origine asiatique ne fut évidemment pas étrangère à ce choix. Cette grande réforme linguistique eut des effets rapides sur la diffusion et l'avancement des sciences de la nature. On s'aperçut alors que parmi les résultats des recherches du XXe siècle et même antérieurs, nombre d'indices étaient restés inexploités. Ainsi, l'histoire des sciences, loin de constituer un simple enregistrement mémoriel du passé, fut elle à même de jouer un rôle actif dans la production des savoirs nouveaux. Parallèlement, les quêteurs se rendirent compte que le développement au cours du XXe siècle d'un corps social de chercheurs scientifiques chargés uniquement de produire du savoir nouveau, sans avoir nécessairement à le réfléchir et à le partager, avait joué un rôle certain dans la décadence du début du XXIe siècle. Ainsi, partant du principe que l'on ne peut bien comprendre que ce que l'on peut transmettre, et réciproquement, les quêteurs se firent-ils une obligation de mener de pair activités de production et de partage des connaissances. Dans cette même perspective, ils comprirent que le renouveau de la science exigeait sa remise en culture et son ressourcement au fond des arts et des lettres, en tenant compte au surplus de la diversité des traditions civilisationnelles qui avaient survécu à l'effondrement. Nous verrons dans le prochain chapitre comment put se développer cette nouvelle science au XXIIe siècle. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce nouveau chapitre.
Une question que je voulais poser tout à l'heure. Althusser a écrit, il y a un certain nombre d'années, un livre qui s'appelle « Philosophie et philosophie spontanée des savants », dans lequel il assigne aux philosophes la tâche de surveiller les scientifiques, en particulier en traçant ce qu'il appelait des lignes de démarcation, pour délimiter ce qui, d'un côté, était de la science et, de l'autre côté, de l'idéologie. Je voudrais savoir ce qui reste dans la pratique scientifique de ce texte d'Althusser et je voudrais savoir s'il y a un philosophe actuellement qui remplit ce rôle.
Alors, ce texte d'Althusser, il m'a nourri dans ma jeunesse, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, et a servi de déclencheur à beaucoup de mes réflexions, comme celle d'un certain nombre de mes contemporains parmi les plus radicaux de cette belle décennie qui s'est écoulée entre 1966 et 1976. La réflexion que je peux faire aujourd'hui quand je le relis, ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, c'est que je à la fois je partage et en même temps je ne partage pas le point de vue de Althusser. Je le partage en ceci qu'il a absolument raison de souhaiter qu'il existe des garde-fous. Il faut laisser les scientifiques fous, c'est bien connu, il existe des garde-fous et que la réflexion philosophique puisse être en prise sur l'actualité scientifique, à la fois d'ailleurs ce qu'Althusser ne traite que marginalement, mais qui ne me paraît pas sans importance, à la fois sur le plan purement épistémologique, c'est-à-dire l'examen de la validité des concepts et de la formulation, mais aussi, bien sûr, ce à quoi vous faisiez allusion, c'est-à-dire tenter de faire le départage entre ce qui relève d'une connaissance objective et ce qui relève d'une concession à l'idéologie dominante. Là où il me semble que Althusser fait preuve d'un optimisme exagéré et infondé, c'est quand il pense que les philosophes peuvent accomplir cette tâche comme si eux-mêmes échappaient à l'influence de l'idéologie. On se retrouve devant le vieux dilemme qui gardera les gardiens, qui surveillera les surveillants, etc. Et ça, c'est effectivement conforme à la haute idée qu'avait Althusser et souvent les philosophes qui se considèrent comme étant, qui ont tendance à se considérer comme étant au sommet de la pyramide. Alors, non, mais ils ont des outils, mais qui peut nous donner la garantie que ces outils, mieux que les concepts des physiciens, ne sont pas eux-mêmes instrumentés par le bain idéologique dans lequel ils baignent. Et Althusser, dans sa position politique à lui, en a fait la démonstration évidente, puisqu'il était effectivement pris dans un certain contexte idéologique. Alors, sous cette réserve-là, c'est-à-dire sous la réserve qu'à mon avis, il n'existe pas, il ne peut pas exister de super-juge par rapport à quelque activité intellectuelle que ce soit, qu'il s'agisse de la science ou de la philosophie, sous cette réserve-là, je pense effectivement que les scientifiques manquent énormément à l'heure actuelle de formation philosophique. Ça me paraît absolument évident. Et que la formation, j'y ai déjà fait allusion tout à l'heure, au niveau de l'enseignement secondaire et ensuite au niveau de l'enseignement supérieur, la formation des scientifiques aujourd'hui devrait faire une place beaucoup plus large à l'histoire des sciences, à la philosophie des sciences, à la sociologie des sciences, qui est une branche qui s'est développée ultérieurement après Althusser et qui nous en a pris énormément, précisément, sur le comportement de la collectivité des scientifiques, qui nous montre comment ça se passe vraiment, la science. Mais ça se passe comme n'importe quelle activité humaine. Elle n'est pas au-dessus des conflits d'intérêts, des rivalités, des querelles de priorité, etc. Ce qui ne l'empêche pas, contrairement à ce que pensent un certain nombre de gens prisonniers encore d'une idéologie scientiste à l'ancienne, ce qui ne l'empêche pas de produire des connaissances fondées et objective, mais elle les produit dans des conditions particulières liées à une société particulière. Et donc il me semble que, c'est ce que j'esquisse à la fin dans cette utopie en parlant des quêteurs, il me semble que c'est une des tâches qui serait extrêmement urgente aujourd'hui, c'est ce que j'appelle remettre la science en culture, c'est-à-dire redonner aux scientifiques dans leur formation d'abord, mais aussi ensuite dans leur tâche professionnelle et d'ailleurs dans leur évaluation au cours de leur carrière, des liens beaucoup plus étroits. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu de près. J'ai eu l'occasion de passer, je suis professeur d'université fondamentalement, mais à un moment donné j'avais envie de me consacrer à des travaux plus épistémologiques et plus philosophiques. Et donc j'ai demandé un détachement au CNRS que j'ai obtenu et j'ai été détaché au sein du département de philosophie de l'Université de Nice comme directeur de recherche au CNRS. Et j'ai constaté à ce moment-là, puisque j'étais au CNRS pendant quelques années, que le CNRS lui-même, qui a des départements de très grande qualité en physique, en mathématiques, en biologie, etc., d'un côté, des départements de non moins grande qualité dans les sciences sociales et humaines, avec en particulier d'excellents historiens et sociologues des sciences. La France n'a rien à envier à un certain nombre d'autres pays sur ce plan-là. Et bien qu'au sein même du CNRS, ces deux catégories n'étaient jamais en communication les unes avec les autres. Le même organisme de recherche, le CNRS, notre grand CNRS, n'utilisait pas les compétences de ses chercheurs en sciences humaines et sociales au profit de ces chercheurs en sciences de la nature. Ce qui est une aberration totale, parce que les compétences étaient là, il suffisait de les mobiliser. Donc, voilà.
Ma question, elle est, je pense qu'elle pourra être ouverte à n'importe qui, mais elle est un peu axée quand même. Je voulais savoir, vu l'analyse que vous faisiez de ce qu'est devenu la science dans nos sociétés, je voulais savoir quel conseil vous donneriez à un jeune chercheur, et je pense par extension à n'importe qui, mais à un jeune chercheur.
Alors j'en profite pour faire un bout de pub. Lisez mon petit bouquin, La science expliquée aux petits-enfants, parce qu'il est plein de conseils justement pour eux. Et qu'un des conseils que je leur donne, et c'est une pratique que j'ai moi-même en tant que grand-père et que j'ai eu en tant qu'enseignant à l'université, ce n'est pas du tout de les décourager de faire de la science. Loin de moi cette idée. Moi, j'adore la physique. J'ai trouvé un bonheur intellectuel énorme. Donc, je ne vois pas, même avec la vision, vous l'avez comprise, quelque peu pessimiste qui est la mienne, je ne vois pas de quel droit je découragerais des gens jeunes de se lancer dans une aventure intellectuelle qui, moi, m'a passionné. Au contraire. En revanche, je leur dis, sachez où vous mettez les pieds et tenter de vous élargir l'esprit au maximum, de ne pas faire que étudier la physique pour les uns, la biologie pour les autres, les mathématiques pour les troisièmes. Lisez tout, de la science-fiction, de la philosophie, allez au cinéma, lisez, etc. Cultivez-vous, ça vous servira forcément. Vous ne vous cultivez pas avec un projet défini. C'est pas forcément tel grand auteur de philosophie des sciences. Si ça vous intéresse, lisez-le. Mais ouvrez-vous l'esprit au maximum. Et ça, je crois que c'est absolument indispensable. Je n'ai aucune preuve, bien entendu, que c'est ça qui fera émerger les Einstein de demain. Mais ce, par contre, dont je suis persuadé, c'est que ça permettra à des jeunes chercheurs qui auraient suivi ce conseil, de mieux comprendre ce qu'ils font, d'en être à la fois plus satisfait et plus insatisfait. Parce que, vous savez, la recherche, c'est ce qu'on ne dit jamais aux gens. Ça, c'est un autre conseil que je leur donne. C'est, on ne dit jamais que faire de la recherche, c'est, banalité, une fois que c'est dit, encore faut-il le dire, passer 90% de son temps à ne pas trouver. Et vous cherchez, et vous ne trouvez pas. C'est un métier qui est psychologiquement extrêmement exigeant et même, d'une certaine façon, frustrant. De temps en temps, vous tombez sur quelque chose, vous êtes très content, mais la plupart du temps, excusez le mot, vous merdouillez. C'est-à-dire, moi, je sais que, en tant que physicien théoricien, je me trompe tout le temps dans mes calculs. Les expérimentateurs ratent tout le temps leurs expériences. La seule chose que vous acquérez avec un peu de métier, c'est d'abord que vous savez que vous vous trompez et que vous commencer à comprendre quelques mécanismes de détection et de correction de ces erreurs. Ce que je dis toujours à mes étudiants, vous faites plein d'erreurs de calcul, moi aussi, la seule différence, c'est que je le sais et que je suis mieux capable que vous de les détecter, donc je vais vous apprendre comment les détecter. Je ne vous apprends pas à ne pas faire d'erreurs, je vous apprends à trouver vos erreurs et à les corriger. Et donc, avoir une vision plus large, vous voyez que là, on aborde un thème qui est quasiment philosophique, c'est la question de la vérité et de l'erreur. La science ne passe pas son temps à trouver la vérité, c'est le contraire, elle passe son temps à nager dans l'erreur. Et de temps en temps, émerge un peu de même. Vérité est un grand mot, on pourrait dire de validité, ça serait déjà mieux. Donc voilà, mon conseil essentiel, ça serait celui-là. Si vous intéressez à la science, ne faites pas que de la science. Bon, alors, deux questions, deux réponses. La première proposition me fiche une trouille terrible. L'idée d'un groupement de savants qui conseilleraient les gouvernements... Oui, mais pas, pas de savants. L'idée qu'il, le fait qu'il y ait des groupes de réflexion, oui, bien sûr, on ne peut que le souhaiter, mais que ces groupes de réflexion soient limités à des scientifiques, c'est quelque chose qui me paniquerait beaucoup, parce qu'on reviendrait effectivement exactement à ce que souhaitait Renan en 1848. Il faut bien voir que la plupart des scientifiques sont d'une incompétence crasse en matière de politique, d'économie, ce n'est pas leur boulot. On ne peut même pas le leur reprocher, ce n'est pas leur boulot. Donc la moindre des choses serait d'abord que ça conjugue des gens des sciences sociales et humaines et des gens des sciences dures et des philosophes. Mais si ce n'est des gens qui ne sont là que pour réfléchir sans avoir à se heurter aux dures réalités de la gestion de la société, ça ne servira pas à grand-chose. Et l'exemple que vous donniez du GIEC est tout à fait caractéristique. Voilà un groupe d'experts, à la fois bien intentionnés, compétents, des gens qui travaillent très sérieusement. Jusqu'à présent, on n'a pas l'impression que ça sert à grand-chose du point de vue de la réorientation de la politique mondiale. Et à mon avis, ça ne servira pas à grand-chose tant que, ou bien tant qu'on aura des catastrophes peut-être moins graves que celles que j'évoque ici, je l'espère, ou bien des sursauts véritablement démocratiques dont on voit des petites étincelles de ci, de là, mais qui pour l'instant sont très insuffisants. Donc il me semble que le vrai problème, c'est effectivement celui de réinventer des formes démocratie, parce que quand vous dites démocratie, vous n'avez rien dit, il faut ensuite voir dans quelle forme elle s'exerce. Est-ce que voter est forcément la meilleure solution? Ce n'est pas tout à fait évident. Dans la démocratie athénienne, on tirait au sort beaucoup de postes d'importance. Alors, d'accord, on ne peut pas transférer directement ce qui se passait dans une ville de 5000 citoyens à ce qui se passe dans des pays de plusieurs millions. Mais réfléchir sur les formes concrètes que prend la démocratie, qui peuvent être très différentes de celles que nous connaissons, me paraîtrait une tâche de relativement grande urgence pour permettre justement de dépasser les butées contre lesquelles nous heurtons à l'heure actuelle. Donc en ce qui me concerne en tout cas, mais je vous avoue là une question un peu... posture un peu personnelle, hein. Je me méfie extraordinairement de toute position d'expertise qui prétendrait être surplombante. Oui, bien sûr, je vais vous donner un exemple, tiens, donc beaucoup plus concret pour faire comprendre ce que je veux dire. Quand on me demande à moi, qu'est-ce que tu penses du nucléaire ? Je suis physicien, théoricien, j'ai fait des cours de physique nucléaire. Je ne sais pas répondre en tant que physicien à cette question. Pourquoi ? Parce que je sais bien ce qui se passe, j'ai bien assez bien, ce qui se passe au cœur d'un noyau, comment il explose quand des neutrons arrivent sur lui, comment il libère d'autres neutrons, comment la réaction en chaîne se propage, etc. etc. Donc sur les fondements de la fission nucléaire, c'est vrai que j'ai une compétence. Mais le vrai problème de l'industrie nucléaire, de ses dangers, etc., n'est pas du tout là. Ce sont des problèmes de béton. Est-ce que les centrales sont assez solides? Est-ce qu'elles sont construites dans des endroits qui ne sont pas trop sismiques? Est-ce que la tuyauterie va résister à la corrosion, etc. etc. C'est des problèmes sur lesquels je n'ai absolument aucune compétence, qui relèvent de domaines technologiques sur lesquels je suis comme tout un chacun. Hein. Ensuite, il y a les problèmes d'ordre économique. Est-ce que ça vaut la peine de fabriquer du courant d'origine nucléaire au prix où on le vend ? Là, vous avez encore tout un autre problème, etc., etc. Donc, le physicien que je suis n'a pas d'opinion escalité sur le nucléaire. Sauf sur une partie minime, mais qui n'est pas la plus importante, en fait. Parce que là, il est connu et maîtrisé depuis longtemps. Donc pour avoir une opinion sur les centrales nucléaires, je suis obligé de travailler comme n'importe quel citoyen, de me renseigner, de comparer, de juger et de juger avec une compétence limitée. Mais c'est ça, la démocratie, c'est ça. C'est que chacun donne son avis malgré une relative incompétence. Sinon, vous basculez dans le spotisme éclairé. que les experts qui sont censés donner leur avis aux politiques qui vont les exécuter. Tchernobyl est une excellente illustration de ce que je dis, parce que Tchernobyl est une catastrophe qui résulte de défauts dans la construction de la centrale, dans son organisation, dans la gestion de la centrale. Ce n'est pas un problème de physique, Tchernobyl. C'est un problème de société. C'est un problème de gestion, d'économie et de technologie, absolument.
Oui, bonsoir. Moi, personnellement, je fais partie d'une génération qui a pu faire un choix, parce que à l'époque, les choses étaient beaucoup plus duelles qu'aujourd'hui, ou enfin, tout au moins, la compréhension qu'on en avait était moins dans la complexité, donc plus dans le bien et le mal. Et je me souviens des réflexions qu'on avait à l'époque, puisque moi, j'ai eu la possibilité d'aller à la faculté, et je n'y suis pas allé, j'ai refusé d'y aller, parce que, pour moi, il y avait la phrase d'Einstein qui disait « Si c'était à refaire, je ferais menuisier », et c'est ce que j'ai fait. Alors, je ne prétends pas être Einstein, loin de là, mais je pense que, tout simplement, le sens de mes paroles, c'est de dire qu'à cette époque-là, on avait un choix. Et il y a des gens de ma génération qui l'ont fait. Et aujourd'hui, je ne verrais peut-être pas les choses de cette manière-là. Je peux vous dire que si c'était à refaire aujourd'hui, je m'engagerais avec ma tête et non pas avec mes mains, parce que je pense qu'il y a des possibilités à travers les technologies, à travers la science, d'aborder les choses de manière plus positive, et non pas en termes de bien et de mal, mais plutôt en termes de lumière. Et je pense qu'il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir dans ce qui nous entoure, surtout dans la jeunesse. Et je pense que, personnellement, que je n'accepte pas, moi, personnellement, cette vision apocalyptique, cette vision... oui, on va vers l'effondrement, oui, on va vers le réchauffement, oui, c'est des faits peut-être, mais pour moi, il y a des forces de lumière qui œuvrent. Et tout simplement, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une phrase qui pourrait résumer ma pensée, c'est les gens qui disent « qu'importe la vie de mes enfants pour que vivent mes idées ». Eh bien voilà, vous mettez dans cette position-là, ben, tout se recentre forcément.
Une question, une question polémique concernant l'introduction des nouvelles technologies à l'école. C'est-à-dire que je suis prof et je vois les salles qui se remplissent d'ordinateurs. Et depuis le début, c'est-à-dire depuis le moment où on a mis des ordinateurs dans les classes, personne n'a été capable de m'expliquer pourquoi on mettait des ordinateurs dans les classes, à quoi ça allait servir, ce qu'on allait en faire, quel était l'intérêt. Et on est dans une course folle à l'équipement des collèges, parallèlement à l'absence d'adultes et de personnes responsables. Voilà. Que pense le scientifique de ça ?
Vous voulez que je vous dise pourquoi on met des ordinateurs dans les collèges ? Parce que c'est un marché captif. Hein ? Ben c'est évident. C'est évident. Hein ? Ça n'arrange que les vendeurs. Alors, pour être quand même pas trop schématique, je ne crois absolument pas à l'enseignement assisté par ordinateur. C'est une connerie. L'enseignement, ça se fait entre individus. Imposer comme ça, sans y avoir réfléchi, des ordinateurs qu'il faut au surplus renouveler tous les 2-3 ans, dont la plupart dorment dans des placards, vous ne me contredirez pas. Hein. Le premier plan informatique remonte à 15 ans, les ordinateurs ne sont jamais sortis des placards où ils étaient. Ça me paraît une aberration. Je pense quand même qu'il y a probablement des usages intelligents à faire de l'ordinateur, mais que les gamins les trouvent tout seuls. Ils trouvent aussi beaucoup d'usages très bêtes. Hein. On est tout à fait d'accord. Mais ils trouvent des usages intelligents. Et l'école pourrait peut-être, c'est là qu'elle pourrait peut-être jouer un rôle, les aider mieux qu'elle ne le fait à l'heure actuelle à faire le tri, c'est-à-dire à ne pas être passif devant leur machine, à ne pas croire, pas prendre pour argent comptant tout ce qui est imprimé, fût-ce dans Wikipédia. C'est le seul intérêt que je verrais, c'est-à-dire que l'école puisse donner une éducation critique à l'usage de l'informatique. Mais autrement, sur le plan purement pédagogique, je partage votre avis, je ne vois aucun intérêt pour l'instant.